Court-circuit. Les doigts dans la prise.
De conscience écologique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Court-circuit, le programme écolo mais rigolo de Radio B, propulsé par le collectif Court-circuit, un collectif qui regroupe des associations et des gens qui ont envie de faire des choses en lien avec l'écologie et le Lab 01. J'ai la joie d'avoir à mes côtés aujourd'hui Anne-Sophie.
Coucou.
Alex.
Bonjour.
Guillaume.
Salut.
Et je suis Mathilde. Alors, selon des experts britanniques, nous y passons en moyenne 1 an et demi de notre vie. Il s'agit de la salle de bain. Aujourd'hui, on va être concret, on va vous parler gel douche, coton-tige, même papier toilette, mais toujours sous l'angle de l'écologie, bien sûr. Donc quand on pense écologie et salle de bain, on pense à tous ces petits accessoires qui peuplent nos placards. Je propose qu'on fasse un petit focus pour commencer sur le gel douche.
Bah oui, j'ai choisi de vous parler de l'impact du gel douche, parce que pratique, il sent bon, il mousse, il est entré dans notre quotidien depuis une cinquantaine d'années grâce à l'industrie du pétrochimique. 77% des Français et Françaises le préfèrent à la savonnette liquide, mais c'est 186 millions de bouteilles par an, soit à peu près 16 000 tonnes d'emballage. Les flacons sont très souvent en plastique, la majorité sont non recyclables. De nombreuses études ont mis en évidence les aspects toxiques de la composition des gels douches, avec beaucoup d'ingrédients à risque pour l'environnement, comme des silicones, des colorants, des ammoniums de quaternaire, et sans doute bien d'autres, mais aussi pour la santé, en particulier le benzyl... elle est donc très compliquée, là, silate, susceptible d'être un perturbateur endocrinien, rien que ça. À ce propos, il y a un essai comparatif de shampoing et gel douche sur le site de 60 millions de consommateurs, avec, je le cite, en particulier un produit de la marque enfant de Tahiti Kids qui nous paraît bien polluant. PEG, PPG, EDTA, ammonium quaternaire. Je ne sais pas du tout ce que c'est tout ça, mais c'est pas l'air d'être super. Avec des composants suspectés d'être perturbateurs endocriniens. Plutôt à éviter comme produit du quotidien.
Ouais, tout ça pour les kids, hein, quand même.
Ouais,
je lisais en plus qu'ils sont en moyenne composés de 70% d'eau, finalement, les gels douches. Donc, on achète plus d'eau que de produits.
J'espère au moins qu'ils sentent bon.
Et ouais, puisqu'on parle de ça et qu'on parle des emballages, bah, quand on est dans le rayon des petits conseils, bah, dans la salle de bain, il faut essayer de fuir les emballages et de privilégier les produits nus qui sont plutôt à la mode en ce moment. C'est plutôt facile de s'en procurer. Donc on pense au shampoing solide, au savon, hein, puisque le savon pour remplacer le gel douche c'est tout aussi bien et en plus c'est plus économique parce que ça dure plus longtemps.
Et ça a fait ses preuves.
Et puis bah oui, tu parlais du plastique, c'est pareil, on peut essayer de se procurer des brosses à dents en bois, en bambou, tout ça maintenant on les trouve dans les grandes surfaces, c'est plutôt sympa, des brosses à cheveux aussi en bois, et puis on peut aussi opter pour les recharges dans les magasins de vrac qui fleurissent un petit peu partout maintenant, et puis dans les magasins bio on peut essayer de recharger nos produits. Et penser aux réutilisables aussi, comme les cotons démaquillants, les cotons-tiges en silicone. Tout ça, ça évite les déchets. Et pour les femmes, on a aussi quelques petits conseils au moment des règles.
Oui, alors les protections périodiques, c'est une vaste question. Pour info, quand on a ces règles, on a en moyenne 10 à 20 000 serviettes jetables ou tampons qui sont jetés par femme. Et en gros, ça fait 2 milliards de protections périodiques qui sont jetées par an en France. Alors, l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser les personnes. De toute façon, il faut qu'on trouve des solutions. Alors, il y a maintenant des solutions alternatives qui existent depuis quelques années et qui ont fait leurs preuves. C'est par exemple la cup que vous mettez et qui récolte le sang. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à nettoyer la cup. Et vous avez également les culottes menstruelles. En réalité, quand on regarde les chiffres, il est plus rentable et préférable d'aller vers ces solutions alternatives. Et ça ne se sait pas forcément. Il y a eu des chiffrages qui ont été faits. Et en gros, les tampons et les serviettes sur un an, ça coûte à peu près 53 €. La cup, à peu près 20 €, mais ça a une durée de vie de 10 ans. Et puis les serviettes lavables, 6 serviettes lavables par exemple, ça dure 5 ans et ça coûte à peu près 90 €. Donc en fait, sur le gain par exemple, sur 5 ans, il est de plus de 200 euros. Et donc, il y a non seulement un intérêt écologique, mais un intérêt économique. Par contre, la différence, c'est que ça nous demande d'investir au départ de façon plus importante que quand on va acheter des serviettes jetables. Et donc, ce n'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible, ben, c'est et écologique et économique. Et là, dans ces cas-là, on a tout gagné, quoi.
Ouais, ça, on aime bien quand l'écologie s'arrive avec l'économie.
Exactement.
Alors moi, j'avais un peu envie de vous parler des parfums, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et la plupart des matériaux utilisés dans la fabrication des parfums, ils sont encore non renouvelables. En 50 ans, la parfumerie a évolué, mais en passant d'une fabrication majoritairement basée sur l'utilisation d'extraits naturels de plantes à une industrie largement dominée par les agents olfactifs de synthèse, issus de la pétrochimie. Sans même parler en fait des solvants, hein, qui sont assez toxiques pour la planète et pour l'être humain. Et en plus, quand on parle parfum, on parle packaging. Le problème, c'est qu'en fait, la complexité des designs et le fait que les flacons sont lestés, alors je ne sais pas si vous le saviez, moi je viens de l'apprendre, mais les flacons sont lestés pour être rendus lourds, pour donner une impression de grande quantité et de luxe. Et en fait, bah, tout ça, ça aggrave en fait leur empreinte carbone à cause de leur transport. Et d'ailleurs, quand on parle d'empreinte carbone, on peut citer une étude sur les émissions de gaz à effet de serre engendrées par l'industrie de la cosmétique dans son ensemble qui s'appelle « It's time to make up the future ». Lol. Elle a été publiée en 2020 et selon cette étude, l'analyse du cycle de vie d'un produit cosmétique, c'est-à-dire aussi bien sa conception, la traçabilité de ses ingrédients, son transport, son utilisation et jusqu'à sa fin de vie, il en ressort qu'en fait le secteur de la beauté serait à l'origine de 0,5 à 1,5 des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Okay. Sans même parler de tous les problèmes de gestion des déchets, de pollution des eaux, etc. Je ne sais pas si vous le saviez aussi, moi j'ai appris plein de trucs dans cette émission. Il y a des microbilles dans les cosmétiques, dans les exfoliants, les gommages, les shampoings et les dentifrices en fait, pour les faire mousser. Et c'est des polymères non biodégradables qui prennent des centaines d'années à se décomposer et donc certains se retrouvent en fait, dans les océans.
De toute façon, quand il y a beaucoup de mousse, généralement, ce n'est pas hyper bon dans ce qu'il y a dedans.
Mais c'est dingue parce qu'on croit que quand il n'y a pas de mousse, ça ne lave pas.
Ah ouais, c'est psychologique.
Mais oui, exactement, c'est vrai. Et ce n'est pas du tout vrai, justement. Bon. Alors, comment on s'y retrouve en tant que consommateur? Heureusement, il y a des labels, l'écolabel européen qu'on connaît quand même puisqu'il existe depuis 1992 maintenant. Dans les produits bio, il y a Cosme Bio. Il y a aussi Slow Cosmetic et je ne sais pas si vous le saviez, mais il va bientôt y avoir un Eco Beauty Score en fait, comme le Nutri-Score, mais sur les produits d'hygiène. Alors c'est L'Oréal qui est à l'origine de ça, entre autres, mais ça devrait bientôt arriver dans les rayons et ça permet un petit peu de nous aider en tant que consommateur pour faire des choix raisonnés.
Et justement, en tant que consommateur, le Nutri-Score, c'est quelque chose que vous regardez ou pas?
Oui.
Ouais.
Ce qu'on achète,
C'est rare que j'ai
je regarde, ça ne veut pas dire que je choisis en fonction, mais...
Bon, c'est peut-être une idée intéressante. Après, ça dépend comment ce sera fait, quoi.
À voir. Bon, je vous propose un petit jeu. Allez, on va faire un voyage dans le temps, comme le dit nos amis d'Ayam. Je vais vous donner des éléments sur l'origine, en fait, de certains objets du quotidien de la salle de bain et vous devez deviner de quoi il s'agit. Son apparition remonte à 1492 en Chine et elle était fabriquée à base d'ivoire et de poils de sanglier.
La brosse à cheveux.
La brosse à dents. C'est Alex Kelly. En Égypte ancienne, il servait à éloigner les mouches, protéger des rayons aveuglants du soleil et jouait un rôle de désinfectant grâce au sulfure de plomb et au chlore qu'il contenait. Il était utilisé par les deux sexes.
J'allais dire le parfum, mais non.
Gel douche.
Non, c'est le maquillage. Plus exactement, le fard à paupières noires.
Ok.
Voilà, d'où les yeux. Au Moyen-Âge, on le nommait escurette.
Le coton-tige.
Ouais, exactement. C'est trop mignon.
Ah ouais. Oui.
À Rome, durant certaines époques de la République, il fut interdit car il était accusé de corrompre l'âme des citoyens.
Un miroir.
Ah, joli.
Non, on en parlait tout à l'heure, le parfum.
Okay.
Ouais. Et en 1550, avant Jésus-Christ, chez les Égyptiens, toujours eux, ils se servaient, ou plutôt elles se servaient, de papyrus ramolli.
Papier toilette.
Non.
Ah, les serviettes hygiéniques, alors.
Ouais, c'est ça, c'était les premiers tampons. Okay. Et, bravo les filles, hein, quand même. Je lisais aussi qu'en Micronésie, c'est marrant, il y a un peuple qui s'abreuve d'une substance pour que leur transpiration devienne parfumée. Je trouvais ça trop fin. Bon, enfin, pour poursuivre, on va parler un petit peu réduction de la consommation d'eau, hein, puisque dans la salle de bain, c'est un sujet. Et le premier réflexe, je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais c'est de mettre des mousseurs ou des filtres en fait, au bout des robinets, des pommeaux de douche. Ça réduit le débit, en fait, ça permet de faire des super économies. Je ne sais pas si vous en avez, vous.
Oui. Ouais, il suffit de laisser un peu en tartré, ça marche bien.
C'est vrai que la salle de bain, c'est aussi l'occasion de revoir en fait, notre approche de l'hygiène, tout simplement.
Exactement, c'est quelque chose... Je me pose pas mal la question en ce moment, je rebondis un petit peu avec l'actualité, avec ce qui se passe à Barcelone et le manque d'eau. Et on se demande si, ben, finalement, promouvoir la douche quasi quotidienne, voire même les bains, enfin bref... Consommation d'eau ultra importante, c'est une bonne chose. Alors oui, il faut un petit peu d'hygiène, c'est important, les odeurs, etc. Bon, on peut comprendre qu'en vivant en société, c'est important aussi. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre une douche tous les jours, surtout en plein hiver? C'est quelque chose qu'on peut se poser la question, mais même de manière plus générale, en fait, l'utilisation de parfums, etc. On ne supporte plus les odeurs qui peuvent être considérées comme incommodantes. Et c'est un peu la tyrannie, la bonne odeur, de sentir bien, de sentir bon, etc., pour être bien en société.
Les règles des femmes, c'est ça aussi, hein, dans les pubs, c'est bleu, parce que c'est des tabous quand même, tout ça.
Attends, elles sont pas bleues, toi?
D'ailleurs, la baignoire, c'est vraiment le gros point noir, hein, dans la salle de bain. Un bain, ça représente entre 5 et 7 douches. Ouais. Bon, moi, j'avoue, j'ai une baignoire, j'aime ça, mais c'est un...
Bah pas, tu peux prendre un mode douche même dans ta baignoire, c'est possible.
C'est ce que je fais aussi. Vous saviez que faire pipi sous la douche, ça permettait d'économiser 26 piscines olympiques par an.
À échelle française, là,
ouais. Bah, pour chaque personne, en fait. Bon, et on peut parler des toilettes. Hein. C'est toujours le truc de, dans les toilettes, il y a de l'eau potable et... Ça pose quand même vraiment des problèmes.
Ouais, la question de l'utilisation de l'eau potable plutôt que, par exemple, de l'eau de pluie. Alors, il y a maintenant des bâtiments où ils réutilisent l'eau de pluie, mais c'est encore une exception. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et puis, il y a la question des rouleaux de papier toilette. Alors ça, on pourrait appeler cette rubrique aussi les prises de tête quand on veut être écolo entre tel sujet ou tel sujet.
Mais c'est concret.
Donc là, c'est pareil. Cette question du papier toilette, il y a des alternatives. Le papier toilette en tissu. Et il y a également ce qu'on appelle les WC japonais, donc où on a de l'eau qui lave nos jolies petites fesses une fois qu'on a terminé. D'abord, il faut rappeler quelque chose. 70% de la population mondiale n'utilise pas de papier toilette. Donc nous qui pensons que c'est un impératif et dès qu'il y a un Covid, tout le monde va chercher son papier toilette en grande quantité parce qu'on ne va pas pouvoir faire autrement. Bon, il y a la plupart des gens dans le monde qui font autrement et notamment avec l'utilisation d'eau. Et puis ensuite, justement sur ces WC japonais, alors j'ai trouvé des chiffres qui disent qu'à peu près ça utilise 0,5 litres d'eau par utilisation quand on va aux toilettes, alors que pour l'eau utilisée pour faire un rouleau de papier toilette, c'est plus de 100 litres d'eau par rouleau de papier toilette.
Eh ouais, on s'en doute pas.
Ouais, c'est important et il y a seulement 40% des papiers toilettes qui sont avec des matières recyclées, donc c'est aussi de la déforestation qui va avec. Donc voilà, il y a des alternatives, même sur des sujets où on pense qu'il n'y en a pas. Tout le monde n'est pas prêt et ça se comprend, ou tout le monde n'a pas la possibilité d'aller vers des solutions fortes comme le papier en tissu pour le pipi. Mais en tout état de cause, c'est des choses qui se réfléchissent, même si ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a quand même de l'utilisation d'eau pour le WC japonais, donc ce n'est pas non plus l'idéal. Et je pense que dans les années à venir, il y aura peut-être il y aura encore de l'innovation sur ces sujets-là. Mais au moins, voilà, ça ouvre les discussions. Voilà. On fait tout ce comme on peut.
Exactement, vous avez les conseils, les infos, vous en faites bien ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'on a des recos aujourd'hui?
Allez, niveau recos, j'animerai une fresque des nouveaux récits chez nos collègues de Côtières en Transition à Bénaud le 16 mars. le 16 mars. Donc, plus d'infos sur Côtière en transition. Vous cherchez ça sur un moteur de recherche, vous trouverez ça. Et puis, il y a un festival qui est sympa aussi. C'est les Herbes Folles à Meximieux, un festival cinéma, écologie, environnement. C'est le
4, 5, 6 et 7 avril.
Voilà, parfait.
Et moi, je participerai le 16 mars à Ambert-en-Bugey, à un Repair Café. Donc, si vous avez quelque chose à réparer, vous pouvez venir nous voir.
Eh bien, c'est parfait. Merci à vous et merci à vous, auditeurs, également, de nous écouter. On vous dit au mois prochain. À bientôt.
Au revoir.
Salut.
Court-circuit.
Court-circuit.
Les doigts dans la prise.
De conscience écologique.